Que ça arrive, 7h30 sur Inter, le journal Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Bonjour Eric, bonjour à tous. Miroir, son beau miroir, celui du télescope de la NASA, est désormais totalement déployé avec succès dans l'espace. Il va d'ici quelques mois commencer son exploration du cosmos. Covid est partiel, en présentiel pour la plupart des étudiants, mais inquiétude des enseignants. Ils redoutent d'être au contact de jeunes contaminés avec peu ou pas de symptômes. Covid et déserts médicaux, la double peine pour certaines régions, dont les praticiens sont partis à la retraite et qui ne sont pas remplacés.
Les invités de cette matinale, dans 20 minutes, Karine, vous recevrez...
La comédienne Clotilde M, qui joue Stallone, une pièce surprenante et magnifique, au Théâtre du Petit Saint-Martin à Paris.
Et puis à 8h20, nous recevrons Augustin Landier, économiste, professeur à HEC. Il est le co-auteur du livre « Le prix de nos valeurs », publié chez Flammarion.
De la joie et un ouf de soulagement pour des astronomes du monde entier, pilotés par la NASA depuis Baltimore sur la côte est américaine, le télescope James Webb a complètement déployé son énorme miroir. Un succès qui n'était pas évident, Étienne Monin, tant la procédure était délicate.
Comme le télescope James Webb est un géant encore plus grand que son ancêtre Hubble, il a fallu en quelque sorte plier les éléments pour les faire entrer dans la fusée Ariane au moment du lancement depuis Kourou le 25 décembre dernier. Le télescope fait 6,50 m d'envergure. Il a d'abord dû déployer son bouclier thermique, puis les deux parties du miroir pour retrouver toute son envergure. C'est une opération périlleuse. C'est cette opération qui vient d'être accomplie. Les deux ailes du miroir principal ont été déployées. Le James Webb pourra ensuite viser son orbite finale à 1,5 million de kilomètres de la Terre pour commencer ses observations. La mission qui rassemble les agences spatiales américaines, européennes et canadiennes consiste à remonter le temps. Le télescope doit permettre d'observer les galaxies les plus anciennes du cosmos qui datent de 250 millions d'années après le Big Bang.
Étienne Monin, les cas de Covid par milliers, plus de 300 000 hier. C'est dans ce contexte de la déferlante Omicron que les étudiants ont eu leur première semaine de partiel et en présentiel, conformément au vœu de la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal. 92% des étudiants sont selon elle vaccinés, mais certains élèves et professeurs ne sont pas rassurés pour autant. Ils redoutent que certains étudiants, malades, mais sans ou avec peu de symptômes, se soient quand même rendus aux examens. Julien Morcelli.
Que ce soit devant 50 étudiants en amphi ou bien en tête-à-tête pendant les entretiens oraux, toute cette semaine, même avec son masque FFP2, Myriam Rossi, professeure de droit à l'Université du Mans, a eu l'impression de prendre des risques.
Il est tout à fait possible que des étudiants ayant eu le Covid soient venus quand même en examen. Un étudiant qui n'a pas beaucoup de symptômes, voire pas du tout, je comprends légitimement qu'il ait quand même envie de venir à l'examen s'il s'y est bien préparé. D'autant plus quand il ne sait pas à quelle sauce il va être mangé sur un rattrapage.
Et c'est bien ça le problème. Dans la majorité des universités, les dates de session de rattrapage n'ont pas encore été fixé. C'est ce qui a fait peur à Clément. Cet étudiant en droit social à la Sorbonne s'est rendu aux examens avec des symptômes Covid.
J'ai encore une épreuve la semaine prochaine, donc je suis encore dans l'hésitation, mais je compte quand même me tester. Enfin, je sais pas pour l'instant, il faut que j'y réfléchisse. J'ai eu dans mon entourage des gens qui ont souffert du Covid, donc c'est pas du tout une inconscience, c'est plus j'ai peur que ce soit des sujets plus difficiles.
Son cas n'est pas une exception, selon Ilan Volson de Rabourg. La semaine dernière, cet étudiant à la Sorbonne a fait circuler un sondage auprès des élèves.
On a eu plus de 10 000 réponses en 24 heures. Les résultats sont que l'immense majorité, quasiment 80%, annonce qu'elle ira quand même aux examens, même si elle a le Covid. Je pense que c'est particulièrement dangereux. On pourrait faire autrement.
L'année dernière, 60% des évaluations partielles et travaux dirigés s'étaient déroulés en distanciel.
Julien Morcelli, en tout cas, les pharmacies ne désemplissent pas. 2,5 millions de tests enregistrés hier sur la plateforme SIDEP. En une semaine, 10% de la population française est passée en pharmacie se faire dépister. Forte pression sur les pharmacies, mais aussi sur l'hôpital. Selon Santé publique France, plus de 3 800 malades sont en réanimation. 243 personnes supplémentaires en 24 heures. Macron, on t'emmerde. Quelques jours après les déclarations fracassantes du président de la République, les non-vaccinés et les opposants au pass vaccinés ont battu le pavé dans plusieurs villes de France. Hier samedi, le ministère de l'Intérieur a annoncé 105 200 participants dans tout le pays, soit 4 fois plus que les 25 500 de la précédente mobilisation mi-décembre. Et à Paris, 3 cortèges ont rassemblé 18 000 personnes. Le plus important était celui à l'appel des patriotes du candidat d'extrême droite à la présidentielle, Florian Philippot.
Et cette épidémie de Covid, Laurence, peut se doubler parfois d'une aggravation des déserts médicaux dans certains secteurs.
En l'occurrence, de départ en série de médecins aux confins de l'Oise, de la Seine-Maritime et de l'Eure. Une grosse demi-douzaine de praticiens ont pris ou sont sur le point de prendre leur retraite dans un rayon de 30 km autour de Gournay-en-Bray en Seine-Maritime. Et ils laissent des patients désemparés faute de remplacement. C'est le reportage de Béatrice Duguay.
La liste que Jean-Michel Dudat égrène est alarmante.
Il y a un médecin de Cerifontaine qui a pris sa retraite il y a 3 jours. Saint-Germain-de-Fly, il est parti, il n'a jamais été remplacé.
Il est le président de la communauté de communes du Pays de Bray.
Il va tarder à prendre sa retraite. Il y a Gournay où il y en a quelques-uns qui sont partis, malheureusement. On a Trichateau, il n'a pas été remplacé. À Gisors, il y en a au moins 4 qui vont partir en retraite et qui n'ont pas de remplaçant.
Conséquence, comme Claire qui habite Gournay-en-Bray, beaucoup se retrouvent sans médecin traitant.
Il n'y en a pas beaucoup et comme ils ont leur habitué, ils ne veulent pas prendre de nouveaux patients.
On a plein de demandes, oui. Oui, c'est compliqué, oui. Ouais. Oui, ça sonne encore d'ailleurs. Oui.
Xavier Lambertin, l'un des deux médecins de la Chapelle au Pot.
Allô ?
Les élus locaux s'activent pour attirer des praticiens, projet de maison de santé entre autres. Mais les patients viennent en ce moment directement au cabinet avec leur dossier sous le bras, explique Xavier Lambertin, qui a pourtant alerté sur le vieillissement prévisible de sa profession il y a 20 ans.
Comme c'était un problème qui était loin, c'est très loin dans 20 ans, on arrivait à assumer tout le travail qu'il y avait à faire. Là, c'est maintenant que les gens se rendent compte parce que on refuse. Et c'est vraiment compliqué. Moi, je le vis mal, hein. Je le vis de plus en plus mal, ça. J'ai eu une patiente avant Noël, 87 ans, en pleurs au téléphone. Elle me dit, écoutez, docteur, j'ai plus de médicaments, je ne trouve personne pour me dépanner. C'est terrible, hein. 87 ans, on est en France.
Reportage signé Béatrice Duguay. Le numéro 1 du tennis mondial, Novak Djokovic, se prépare à défendre ses chances de jouer l'Open d'Australie qui démarre dans 8 jours. Audience en ligne devant le tribunal fédéral prévu demain à 10h heure locale. Ses avocats vont expliquer que leur client, qui a eu le Covid mi-décembre, n'était pas obligé d'être vacciné pour entrer en Australie, sauf que le joueur a été vu le jour du test et le lendemain sans masque lors de plusieurs événements à Belgrade. Alors Covid, hors notre Covid, ce sera toute la question, car si le joueur était vraiment infecté, pourquoi s'est-il comporté de la sorte en public? Et s'il ne l'était pas, il aurait menti et s'exposerait alors à d'autres risques que de manquer le tournoi du Grand Chelem. Le militant politique égypto-palestinien Rami Shaat, détenu en Égypte depuis plus de 2 ans et libéré cette semaine, est arrivé à Paris hier samedi. Il a été contraint de renoncer pour cela à sa nationalité égyptienne pour obtenir sa libération. L'homme de 48 ans, figure de la révolution égyptienne de 2011, était détenu depuis juillet 2019. On écoute Rami Shaat au micro d'Algera Mohamed.
Je suis très content d'être ici. J'ai passé 2 ans et demi dans différentes prisons avec un traitement inhumain. Je veux remercier Monsieur Macron pour son soutien. Son travail était essentiel. Je veux remercier aussi les milliers de personnes qui m'ont envoyé des messages. 2 ans et demi plus tard, je reste déterminé à continuer. J'insisterai toujours pour libérer mes amis enfermés dans les prisons égyptiennes, pour les droits de l'homme en Égypte et pour une Palestine libre. Je veux remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu et je veux leur dire que notre combat n'est pas terminé. Tout ça va continuer et ils ne nous arrêteront pas.
Le militant Rami Shaat avec Algera Mohamed. Au Brésil, 7 morts, 3 disparus sur un lac très touristique du Minas Gerais. Tout un pan de falaise s'est détaché. Il est tombé sur des bateaux en contrebas, ce qui a semé évidemment la panique parmi les passagers qui assistaient à la scène sur d'autres bateaux. La chorégraphe Mathilde Monnier est de retour pour un spectacle intitulé Records, une traversée musicale, chorégraphique. C'est jusqu'au 15 janvier à Chaillot, à Paris, une pièce imaginée pendant le premier confinement. Et qui dit, Stéphane Capron, l'urgence des artistes à continuer à créer, même en temps de Covid.
Comme tous les artistes et les chorégraphes, Mathilde Monnier s'est trouvée en mars 2020, dès les premiers jours du confinement, face à un grand vide.
Je me suis retrouvée sans corps, sans danse, sans espace, pas de studio, pas de danseur, plus d'espoir. Et j'ai commencé à travailler toute seule dans le studio, à taper contre les murs d'une certaine manière en me disant c'est une pièce intérieure, hein, c'est une pièce sur un intérieur qui regarde vers l'extérieur.
La crise sanitaire a donc contraint la chorégraphe à se poser des questions sur sa danse. Il a fallu ensuite réapprendre à bouger les corps dans l'espace. Et il y a aussi dans Records la volonté de crier.
On s'interpelle parce qu'on est tellement loin que finalement on ne peut pas se toucher. Donc on s'interpelle par des mots, un peu à l'italien comme ça, comme dans des villes en Italie. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Et voilà, et un langage des mains, un langage des mots très simples, très immédiats, parce que l'onomatopée, c'est ce mot mot très court, mais derrière lequel se cache un monde, finalement.
Mathilde Monnier, pour les premières représentations à Chailloux, a dû reprendre le rôle d'une de ses danseuses touchée par la Covid-19. Il lui était impossible de ne pas surmonter ce nouvel obstacle.
Stéphane Capron. Et puis cette victoire de bon augure à l'approche des JO de Pékin début février. Perrine Lafont, qui n'avait pas encore remporté d'étape de Coupe du Monde de ski de bosse cette saison, eh bien elle s'est imposée au Canada, au Mont Tremblant.
Le journal de Laurence Thomas, le temps de ce dimanche.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Avec de fortes pluies près des Pyrénées, Jean-Michel Gonaski.
Ah, effectivement, ce sera à partir de ce soir. Elles vont d'ailleurs se poursuivre demain. Conséquence, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et l'Ariège sont en vigilance orange, forte pluie, inondation. Et puis, il va beaucoup neiger à moyenne altitude sur les Pyrénées, d'où le risque d'avalanche qui va devenir de plus en plus fort. Les éclaircies les plus durables sont aujourd'hui pour le nord, le Pas-de-Calais et le pourtour méditerranéen, mais avec beaucoup de vent près de la Méditerranée. Et puis, l'Alpe mineure est en crue, raison pour laquelle le département du nord est en orange. Du Grand Est à Rhône-Alpes, le gris va s'imposer avec de la neige et des flocons par intermittence. Un temps maussade également aujourd'hui de la Gironde à la Bretagne. Enfin, du Massif central en remontant vers la Picardie, le ciel variable va lâcher pas mal d'averses. Le tout dans des températures cet après-midi à peu près équivalentes à celles d'hier.
Jean-Michel Golinski, Météo France.